now the next step in that is bringing Starbucks to the negotiating table. We have earned our seat, and we have proven that we are Starbucks.
Nous sommes Starbucks. Elle s'appelle Jana Reeve. À Buffalo, une ville du nord-ouest des États-Unis, elle est chef d'équipe dans ce café Starbucks de Camp Road. Sur 27 employés, bon, chez Starbucks, on dit pas employés, hein, on dit partenaires. Eh bien, 19 ont voté pour la création d'un syndicat. Ils sont heureux, ils ont gagné. C'est une première pour la chaîne dans un pays où 6% des salariés du privé sont syndiqués. Pourtant, Starbucks offre un congé parental, une couverture santé, et la direction avait même promis $15 de l'heure minimum à l'été prochain. Mais Jana et ses collègues en ont eu assez, des sous-effectifs et de la course à la productivité. Ils auraient aussi pu poser leur dème. C'est ce que font depuis des mois des millions de salariés américains, en majorité des travailleurs non qualifiés qui savent que oui, oui, de l'autre côté de la rue, il y a des offres d'emploi et mieux payées. Le phénomène s'appelle « The Great Resignation », la grande démission. Il touche les cafés-restaurants, mais aussi la santé et l'éducation. Du coup, cascade de questions. Est-ce que la pandémie a inversé le rapport de force sur le marché du travail? Est-ce que les salaires vont fortement augmenter? Est-ce que, par conséquent, ils vont nourrir l'inflation? Je vous livre la réponse toute fraîche des économistes de Natixis. Tout dépend des difficultés de recrutement. Est-ce qu'elles sont réelles et durables? Réponse, non au Japon, non en zone euro, et même non aux États-Unis. Un seul pays devrait donc redouter la vraie inflation, le Royaume-Uni. Interesting.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Welcome, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour parler de l'économie comme nous la vivons. Avec un homme qui nourrit des millions de personnes, son entreprise s'appelle Elior, c'est peut-être elle qui est aux commandes de la cantine de votre entreprise ou de l'école des enfants. Le retour du télétravail, l'augmentation des prix des produits alimentaires, qu'est-ce qui va changer sur les plateaux et dans les assiettes? Le patron d'Elior, Philippe Guillemot, sera avec nous dans moins d'une demi-heure. Et demain, dans les assiettes, trouverons-nous des insectes et de la viande cultivée en laboratoire? Des start-up y croient, des investisseurs les suivent. Gros plan ce matin sur cette food tech française. Vous entendrez le reportage de Marion Ferrer. Hello, good morning, Madame Vioboulot. Bonjour, Sandrine Foulon.
Hello, Alexandra.
Ah, très bien, bon accent. Il y a du nouveau pour les livreurs.
Oui, les travailleurs des plateformes pourraient bientôt être considérés comme des salariés. C'est un projet de la Commission européenne. Et Étienne, ancien livreur, se demande comment rester indépendant quand on le veut vraiment.
Quand on le veut vraiment. On se retrouve juste avant 10h. Étienne, vous aurez la réponse de Sandrine Foulon. Mais d'abord, le lever de rideau, c'est le débat avec Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous. J'ai essayé d'amener des insectes alter eco, ça, j'ai pas fait fureur.
Ah, vous l'avez vraiment fait?
Ah ouais, c'est très bon hein, les insectes grillés, mais j'avoue que mes collègues n'ont pas beaucoup aimé.
Ok, bah ce matin on n'a pas eu de rose insecte de Christian. Bonjour Laurent Bigorne.
Bonjour, personnellement je préfère le chocolat.
Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Alors, le 11 décembre 2001, c'était un mardi, on a regardé, la Chine est devenue le 143e membre de l'Organisation mondiale du commerce. Et 20 ans plus tard, coup d'œil dans le rétro, mais quel moment de bascule pour la planète. Est-ce qu'il faut le regretter? En tout cas, à écouter les archives, on ne se doutait pas du tout de ce qui allait arriver. Flashback, retour en 2001.
Gros plan sur le nouvel an chinois, 2001, année du serpent, année aussi de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce.
L'arrivée de la Chine au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est incontestablement l'événement majeur. Alors il est passé inaperçu, occulté ou presque par la tragédie du World Trade Center, mais l'arrivée de la Chine va tout changer.
Bill Clinton, président des États-Unis.
En ouvrant ses frontières, la Chine donne une opportunité aux agriculteurs, aux employés, aux entreprises américaines. Ils peuvent entrer avec succès sur le marché chinois et apporter la prospérité à la Chine.
Après son entrée à l'OMC, la Chine honorera scrupuleusement tous ses engagements,
Zhu Hongqi,
à savoir une plus grande ouverture du marché intérieur,
Premier ministre de la Chine,
une ouverture par étapes du secteur des services. Tout cela va ouvrir de nouvelles voies en créant de meilleures opportunités pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Union européenne.
C'est d'abord une reconnaissance politique.
Christian de Pertuis,
que cherchent les dirigeants chinois,
chef économiste du bureau d'information et de prévision économique.
Car d'un point de vue pratique, Je dirais que la Chine est déjà largement engagée dans le système de commerce multilatéral. Le paysan chinois va-t-il bénéficier de cette mondialisation ou est-ce que le paysan chinois va subir les mêmes traumatismes que avait subi par exemple le paysan britannique au XVIIIe siècle ?
Le pari chinois qui est d'ouvrir un peu plus ses frontières économiques afin de stimuler la croissance.
Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Ou afin de faire en sorte que cette croissance ne baisse pas, avec les enjeux que cela comporte. Bien sûr, il y aura des industries chinoises qui seront fragilisées. Ce pari reste, je crois, le pari de la direction chinoise, quels que soient les aléas de la relation bilatérale avec Washington.
Je pense qu'il est de l'intérêt du monde.
Pascal Lamy.
Que la Chine rentre à l'OMC.
Commissaire européen pour le commerce.
C'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt des États-Unis. Je pense que c'est de notre intérêt global et en plus je pense que c'est de l'intérêt chinois.
Que de richesses dans les tiroirs de l'INA. Alors le 11 décembre 2001, la Chine, je l'ai dit, entre à l'OMC et aujourd'hui il y a comme une désillusion hein, sur cette entrée de la Chine. Ça tiraille même encore la campagne présidentielle française avec la désindustrialisation, les accusations de naïveté européenne et puis le sentiment d'impuissance face au rouleau compresseur chinois. Laurent Bigorne, je me tourne vers vous. Pourquoi, il y a 20 ans, a-t-on fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce ?
Il faut regarder des deux côtés, du côté chinois et puis du côté des Occidentaux. À l'époque, l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est la sortie du schéma d'autosuffisance du pays qui était en vigueur pendant la période maoïste, et ça a été vécu comme une étape absolument cruciale, décisive dans la réforme, l'ouverture du pays. La métaphore chinoise utilisée pour désigner l'admission de la Chine à l'OMC, c'est l'entrée dans le monde. Du côté occidental, qu'est-ce qui motivait les choses ? On croyait à la démocratisation par le commerce. On voulait surtout, il faut bien le dire, au-delà de ces raisons politiques, avoir accès à un marché gigantesque d'un milliard de personnes.
Ça faisait rêver les entreprises. Ça,
et exactement, et les gouvernements étaient contents parce qu'ils ont ils avaient le sentiment qu'ils allaient pouvoir avoir accès à des importations très peu chères, qui allaient favoriser le pouvoir d'achat de leur population, sans voir qu'il y avait un risque de perte d'emploi et de livraison de technologies. Du côté chinois, quand on reprend les textes de l'époque, il y avait beaucoup de craintes. Parce qu'on a toujours l'impression que la Chine, c'est un rouleau compresseur où tout est prévu d'avance. Non, la réduction drastique des droits de douane du côté chinois, puisque c'était ce qui était en jeu dans l'entrée à l'OMC, le fait de devoir cesser le soutien aux entreprises publiques, ont fait craindre aux Chinois des problèmes de restructuration massive dans leurs entreprises publiques, dans leurs banques, assurances, services financiers, mais aussi des acteurs industriels dont la technologie était souvent dépassée, qui avaient peur à l'époque des Occidentaux. Il y avait toute une rhétorique en Chine à l'époque, on s'en souvient pas aujourd'hui, mais quand on prend les sources, c'est ce qu'on trouve, qui nous disait qu'au fond, la Chine allait être une fois de plus dans son histoire la proie des Occidentaux. Donc l'histoire n'était pas écrite d'avance.
Non, on ne se doutait surtout pas de la façon dont ça allait se dérouler ensuite. Et c'est cette question que je vous pose, Christian Chavagneux. C'était l'un des pays les plus pauvres de la planète.
Mais attention, moi je vois l'entrée de la Chine dans l'OMC moins comme un début. Ah ça y est, la Chine s'ouvre, que comme une fin. Pourquoi je vous dis ça ? La Chine demande son accession au GATT, qui était l'ancêtre de l'OMC, en 1986. 86. Donc la volonté d'entrer dans le jeu multilatéral occidental, ça date de 86. Évidemment, en 86, les Occidentaux sont encore en pleine guerre froide, etc. On s'en préoccupe pas beaucoup, ça va prendre 15 ans jusqu'à l'arrivée en 2001. Quand la Chine demande l'entrée au GATT, c'est les exportations, c'est 8% de son PIB, c'est-à-dire rien du tout. En 2001, quand elle rentre, c'est 20%. La part a été multipliée par 2,5. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est que l'hypermondialisation, comme l'appelle l'économiste américain Daniel Roderick, est déjà là. Elle n'est pas en devenir en 2001, elle est déjà là. Les firmes multinationales occidentales poussent à intégrer la Chine, poussent leur gouvernement à intégrer la Chine. En 86, elles investissaient en gros 2 milliards en Chine par an. En 2001, c'est déjà 50 milliards. Donc c'est pas demain il y a un marché chinois, c'est déjà les multinationales, elles y sont, elles veulent que la Chine rentre dans le cadre et donc elles disent à leurs états, faites rentrer la Chine. Le mouvement, il est déjà en cours avant 2001.
Alors je fonce une porte ouverte, mais oui, c'est bien ça le sujet hein. Quand on veut adhérer au GATT ou à l'OMC, le sujet c'est de faire baisser les droits de douane et d'ouvrir plein de marchés. C'est ça la logique. L'histoire, Laurent Bigorne, la Chine, alors moi je dis que c'était l'un des pays les plus pauvres de la planète, je crois quand même qu'en 2001, Christian, on était... Enfin bon, Laurent, aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique mondiale.
Aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique mondiale et il y a eu comme une décennie en or après 2001. Durant cette période, la Chine a fait passer son commerce extérieur de la 32e à la 9e place mondiale. Le PIB par tête, la richesse par tête annuelle en Chine est passée de 1 000 dollars en 2001 à 10 000 dollars aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2001, il y avait un rapport de 1 à 36 entre le PIB par tête en Chine et aux États-Unis. Il n'est plus que de 1 à 6. Et quand on regarde le magazine Fortune, il nous dit qu'en 2020, il y avait 124 entreprises chinoises qui figuraient parmi les 500 premières entreprises mondiales. Elles sont désormais dans ce classement plus nombreuses que les entreprises nord-américaines. Il y a 20 ans, il n'était que 10.
Bon, alors ça, je crois qu'on a bien établi, hein. On a fait notre photo, comme d'habitude.
Premier exportateur mondial,
ben oui.
Il faut le dire quand même. Et surtout, du côté des importations, les trois quarts des importations, ça reste des produits intermédiaires, c'est-à-dire des produits qu'on va mélanger avec d'autres types de produits pour faire un bien final. Donc on a envie de dire...
Ah, c'est pas du t-shirt, c'est pas du produit fini.
Non, non,
ça
non,
c'est intéressant.
Les trois quarts des importations, ça reste du bien intermédiaire qu'on va mélanger là pour faire du produit final. Mais, donc on pourrait se dire, bon, la Chine finalement aujourd'hui, ça reste que l'atelier du monde. Non, pourquoi? Parce que grâce aux économistes, on peut faire des petits calculs sur la part de la valeur ajoutée qu'il y a dans les exportations chinoises. Et là, on s'aperçoit que sur les premiers secteurs d'exportation, les ordinateurs et les produits électroniques, c'est 70% de valeur ajoutée domestique. Sur les équipements électriques, c'est 80%. Sur les textiles et vêtements, les fameux t-shirts, c'est 90% maintenant de valeur ajoutée domestique.
C'est là où ils sont très forts.
C'est là où
ils ne prennent pas des composants de toute la planète pour fabriquer un iPhone.
C'est ce qu'ils faisaient, mais aujourd'hui aussi, ils apportent leur propre valeur ajoutée.
Laurent Bigorne, pourquoi ce sentiment, et dites-moi si vous pensez qu'il existe, je pense qu'il existe, d'amertume. Pourquoi ce sentiment, cette désillusion sur l'entrée de la Chine?
Premièrement, le sentiment que la Chine n'a pas joué le jeu.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qui lui était imposé, elle l'a respecté. C'est d'ailleurs un pays qui est plutôt très observant en l'OMC de la fonction juridictionnelle de l'OMC. C'est-à-dire quand il y a un arbitrage qui est rendu à l'OMC, la Chine est très mieux disante. Pourquoi? Parce qu'elle veut garder à l'OMC son statut de pays en développement. Et un des enjeux de l'OMC, où on décide pas nous occidentaux, c'est multilatéral comme le disait Christian, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réviser le statut de pays en développement qui était bien celui de la Chine en 2001, qui est plus objectivement celui de la Chine aujourd'hui, et la Chine n'entre vraiment dans aucune catégorie.
Pourquoi elle veut rester dans ce statut de pays en développement? Ça lui donne des avantages.
Ça lui donne des avantages, sachant que les Européens, les Américains ont commencé à se rebeller en 2016, puisqu'ils ont dit à la Chine, attendez, vous n'êtes pas une économie de marché. Donc en réalité, on va pouvoir adopter et continuer d'adopter contre vous des mesures anti-dumping. On ne vous reconnaît pas le statut d'économie de marché. C'est allé un cran plus loin en 2017, puisque on est passé en fait de cette non-reconnaissance de la Chine comme économie de marché en 2016 à une guerre commerciale à partir de 2017. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à prendre les calculatrices les uns et les autres, hein, et les économistes, qu'ils soient américains, européens ou français, ont commencé à dire, attention, perte d'emploi. Bien sûr, il y a des gains de pouvoir d'achat. Ces gains de pouvoir d'achat, d'ailleurs, jouent souvent pour des gens dans nos économies occidentales qui sont plutôt des CSP moins favorisés, mais ce sont aussi ces CSP moins favorisés et les classes moyennes qui ont connu des pertes d'emplois assez fortes. On parle quand même aux États-Unis de 2 à 2 400 000 emplois perdus entre 1999 et 2011. On parle en France de 270 000 emplois perdus et on pense que 13% du déclin industriel du pays vient de l'ouverture à la Chine. Donc il y a effectivement une forme d'amertume aujourd'hui.
Christian,
il y a quand même un narratif, il y a un narratif libéral quand même qui consiste à dire, oh, on a mis la Chine à l'OMC parce que elle allait respecter comme nous le cadre du libre-échange. Et puis les Chinois sont vraiment des méchants, ils ont pas fait le libre-échange, ils ont fait plein de subventions de la politique industrielle. Ça, c'est un baratin total.
Attendez, ils ont donné beaucoup d'aide publique. Enfin, leurs entreprises, il y a énormément d'aide publique.
Mais vous croyez qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'aide publique? Les GAFA, ils sont pas sortis de simplement de l'imagination des Bill Gates et tout ça. C'est toute l'armée américaine, c'est tout le développement de la commande publique américaine, militaire et civile, qui a permis le développement des grandes entreprises.
Donc, je crois que ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Parce que l'Europe joue le jeu.
Il se trouve
que les États-Unis et la Chine sont deux empires et agissent comme des puissances impériales.
Voilà. Nous, on est vraiment l'idiot du village.
Alors
global.
Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'on a les t-shirts, mais on a aussi l'histoire des panneaux photovoltaïques. Les idiots?
Mais bien évidemment, les États-Unis, eux, ont joué quoi? Ils ont joué le développement des accords bilatéraux de commerce entre les États-Unis et les autres pays pour contourner l'OMC, organiser une forme de protectionnisme. Ils n'ont pas du tout joué, comme nous, Européens, pauvres idiots, les règles du libre-échange. Alors là où on ne le joue pas, nous, c'est que, comme les États-Unis, on a beaucoup de subventions agricoles. On n'a aucune leçon à donner aux Chinois en termes de subventions sur le plan de marché agricole. Oui, les États-Unis et la Chine ont conservé une politique industrielle. Nous, on s'aperçoit maintenant, simplement en 2021, qu'on a laissé nos marchés publics ouverts, alors que les Américains et les Chinois, c'était pas ouvert. On les a laissés construire des champions mondiaux, alors que nous, on n'a pas été capable de le faire. Et quand même, j'ai été fasciné par ce chiffre. Entre 2000 et 2020, 360 entreprises européennes ont été rachetées par des Chinoises. Alexandra, est-ce que vous connaissez l'entreprise Geely?
Geely.
Personne ne connaît Geely. Geely, elle prend le contrôle de Volvo en 2010. Elle est le premier acteur.
Geely, le fabricant d'automobiles. Ah, bah, pardon. Voilà, mais Geely, c'est parce que vous n'avez pas d'accent chinois.
Ouais, j'ai pas l'accent chinois.
Pas confondre avec la chaîne Geely.
Tout à fait. Et premier actionnaire de Daimler en 2018. Ouais, la Chine non seulement a racheté ses entreprises Dunlop et tout, enfin le Pirelli pardon, mais elle s'est branchée sur tout le système d'innovation de l'automobile allemand. Et c'est ça qu'ils ont réussi. Les Chinois, on peut pas se plaindre que nous, on l'ait pas. Enfin, si on doit se plaindre de quelque chose, c'est que nous, on l'ait pas fait.
Bien. Est-ce qu'on est...
Oui,
Laurent.
Oui, il faut, comme toujours, nuancer. Bouygues Europe a été dans une situation où il a pris conscience tardivement du sujet. Mais il y a des pays en Europe qui ne se sont pas laissés faire. Christian cite l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a jamais cessé de voir la Chine comme un concurrent et pas seulement comme un sous-traitant. Nous, les Français, on était convaincus qu'on parviendrait à garder la R&D, les services, tout ce qui était hautement qualifié. Pendant ce temps-là, les constructeurs allemands, ils ont véritablement tiré leur épingle du jeu. Ils représentent aujourd'hui 30% des ventes de véhicules en Chine contre 1,3% pour la France. Et Volkswagen a réalisé 56% de son chiffre d'affaires dans le pays en 2020. Et l'Allemagne représente aujourd'hui 48,5% des exportations européennes vers la Chine.
Il y a des multinationales qui ont été plus intelligentes.
Bien sûr, mais
c'est ça que vous dites.
Oui, et des pays qui ont été mieux organisés. C'est-à-dire que, bien sûr, l'Europe comme un ensemble pose des problèmes. On pourra y revenir, mais il faut voir que si la France, elle, n'a pas tiré son épingle du jeu, il y a des pays qui en Europe ont su le faire.
La question maintenant, Laurent, Christian, c'est peut-être est-ce qu'on est devenu, alors peut-être collectivement, peut-être individuellement, plus malin. Est-ce que on a dit, Bruxelles a dit maintenant, Pékin est un rival systémique. Qu'est-ce qu'on peut récupérer dans l'industrie? Est-ce que où est notre souveraineté? Est-ce qu'il faut se battre pour l'industrie, le numérique? Christian, est-ce qu'on devient plus malin? Voilà, c'est ça ma question.
On est en retard sur la politique industrielle par rapport à la Chine aux États-Unis. On est en retard sur la recherche et le développement. On est en retard sur la définition des standards mondiaux. Je vous donne un exemple. Vous savez, les fameuses routes de la soie chinoises qui consistent à financer, la Chine finance des développements d'infrastructures un petit peu partout dans le monde, notamment dans les pays émergents. Les Chinois ont réussi à poser à 49 pays à adopter les standards ferroviaires chinois. C'est-à-dire que si demain, à ces 49 pays, et demain, il y en aura d'autres.
Beaucoup en Afrique.
Beaucoup. En Afrique, en Asie, en Amérique latine. Ils sont chez tous les pays émergents. Si vous voulez vendre demain des trains, il va falloir avoir les trains chinois. Sur le numérique, pardon, mais sur le numérique, on est out complètement l'Europe. On ne sait pas si on est plus malin, on est out complètement. La Commission européenne veut développer un cloud européen. Oui. D'accord? 2 milliards de fonds de la Commission, plus 8 milliards privés, ça fait 10 milliards en 7 ans. C'est même pas ce qu'investit Amazon en un trimestre. Donc on est très 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 loin de pouvoir récupérer quelque chose. Igvision, vous connaissez Igvision?
Non, là non.
Et Dahua, 40% du marché mondial de la télésurveillance, c'est deux entreprises chinoises. La Chine vend des réseaux intelligents de ville dans plus de 100 pays avec Hengtong, qui est la quatrième entreprise mondiale de câbles sous-marins. Il y a 10 ans, ils étaient importateurs. Bref, sur le plan numérique, le cloud, les États-Unis dominent. Les satellites basse orbite, c'est plutôt les États-Unis aussi.
Oui.
Mais sinon, franchement, il y a les États-Unis qui est le gros acteur du numérique, la Chine qui devient le gros acteur.
Vous êtes très déprimant.
Nous, on n'existe pas. Je pense qu'on est mort face à la Chine aux États-Unis.
Sur le numérique.
Moi, sur le numérique en général. Sur les batteries, etc.
Je pense, après cette victoire très sévère, qu'on n'est jamais mort. D'abord, il y a eu effectivement un choc qui est intervenu en Europe après le rachat en 2016, parce que c'est venu d'Allemagne, du fleuron de la robotique allemande, KUKA. Et à partir de là, Bruxelles a opéré un tournant en renforçant ses mesures anti-dumping. La plupart des mesures anti-dumping européennes aujourd'hui concernent la Chine, les trois quarts, on va dire. Il y a des mécanismes de filtrage des investissements étrangers qui ont commencé.
Qui vient d'être renforcés.
Et
ouais.
On considère désormais que la Chine est un rival systémique. Ça veut dire quoi, cette qualification depuis 2019? Ça veut dire qu'on sait qu'elle utilise des méthodes concurrentielles qui sont jugées inéquitables. À partir de là, il y a, à mon avis, des batailles à gagner. Parmi les batailles à gagner, il y a la décarbonation. Et c'est là où l'Europe a des choses à dire. Elle a des choses à dire à la fois parce que elle doit protéger son marché en disant que les pays qui vont produire de façon très carbonée, et c'est ce qui va se passer, ça a été décidé en juillet 2021, à partir de 2026, c'est ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
On ne veut pas appeler ça une taxe carbone, mais
c'est un mécanisme d'ajustement, c'est une taxe carbone.
Voilà.
Et on sait que les produits chinois sont à très forte empreinte carbone, l'aluminium, l'acier. Et donc, là, à cet égard, je pense qu'il ne faut pas regarder les batailles qu'on a perdues hier, et Christian a raison, on en a perdu beaucoup, il faut regarder comment on peut en gagner demain, notamment sur ces standards de décarbonation.
Allez, le mot de la fin, Christian.
Les autoroutes de l'industrie, les autoroutes du numérique, elles passent entre les États-Unis et la Chine, et nous, l'Europe, on croit qu'on va mettre des règles du jeu. Vous pouvez toujours installer des passages cloutés sur une autoroute, mais le résultat, c'est que vous ferez écrabouiller.
C'est une super punchline, mais ça veut dire que vous ne croyez pas du tout à cette taxe carbone, à cet ajustement carbone aux frontières pour... C'est du protectionnisme vertueux, vous n'y croyez pas?
Non, pas du tout. On n'a pas assez de moyens en Europe, c'est trop tard.
Laurent?
Moi, je veux rester du bon côté, j'allais dire, de la pensée de ce point de vue-là. On nous a parlé des routes de la soie. Quand la Chine prête 400 milliards, ce que rappelait Joseph Borrell, celui qui s'occupe de la politique extérieure de l'Union européenne, c'est que nous, on a donné 400 milliards dans la même période, non pas de prêts, mais tout simplement d'assistance et de développement. Donc l'Europe a encore un mot à dire.
L'Europe a encore un mot à dire pour Laurent Bigorne et pas vraiment pour Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi matin dans On n'arrête pas l'écho. 9h32 sur France Inter. Allez, on tourne la page, nous changeons de sujet. Je vous propose de parler à présent d'alimentation, de ce que nous mettons dans nos assiettes, à quel prix. Et pour nous accompagner, un géant français de la restauration collective et l'invité du Mag Éco. Bonjour Philippe Guimau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Elior. Elior, numéro 2 mondial. Le numéro 1, c'est le britannique Compass. Et derrière Compass, on va trouver donc Elior et puis l'autre grande entreprise française, Sodexo. Cela signifie que l'on trouve vos cantines dans des écoles, des hôpitaux, des bureaux, des usines, des prisons. Et pour finir la photo, j'aime bien faire des photos. Vous êtes présent dans combien de pays?
5 pays, 4 en Europe.
C'est-à-dire? Dites-nous.
France, Espagne, Italie et UK. Et nous sommes leaders en France, Italie et en Espagne. Et nous sommes également présents aux États-Unis, qui est le deuxième pays du groupe.
Et l'Inde, c'est fini?
L'Inde, aujourd'hui, l'activité est très très fortement ralentie compte tenu du Covid.
Alors, on en parlera. Pour l'instant, parlons un peu, Philippe Guimau, de ce qu'on met dans nos assiettes. 3 Français sur 4 sont prêts à manger moins de viande et de poisson, nous dit une étude IFOP. Une nette majorité donc qui veut bien adapter son régime alimentaire pour que ça soit plus soutenable pour la planète. Est-ce que ça, vous le voyez sur les plateaux à la cantine?
Alors ça, on le voit, puisqu'on voit effectivement une baisse de la consommation de viande. On a nous-mêmes des objectifs de réduction d'émissions de CO2 par repas. Aujourd'hui, en moyenne, un repas servi, c'est 3,8 kg de CO2 émis. Et donc, on a pour objectif de réduire de 12% cette émission d'ici 2025 en jouant sur 3 leviers. Effectivement, les menus et leur contenu, et sans doute d'ailleurs plus de protéines végétales et moins de protéines animales. La réduction du gaspillage alimentaire, qui joue évidemment un rôle clé.
C'est beaucoup ça? Il y a une cantine à Radio France, hein, il faut peut-être que je vous le dise, c'est pour ça, j'ai une expérience sur la cantine.
Au plan mondial, 30 à 40% de l'alimentation produite n'est pas consommée. Donc c'est un gaspillage énorme. Dans nos métiers, c'est principalement lié au fait que le convive se sert et ne mange pas obligatoirement ce qu'il a mis sur son plateau. Et donc nous avons tout un tas de démarches d'éducation, à commencer dans les écoles, où nous apprenons aux élèves, je veux dire, l'importance de cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc ces initiatives, évidemment, font partie de notre plan pour réduire les émissions de CO2.
Et le troisième levier, ça va être quoi?
Alors le troisième levier, c'est les énergies renouvelables. On bascule sur des énergies renouvelables, en particulier l'électricité, qui sera à plus de 80% renouvelable en 2025.
Dans vos cuisines?
Exactement.
Alors, vous, dans vos cantines, vous mettez le Nutri-Score pour savoir ça, si c'est plus trop, un peu gras, un peu salé, un peu sucré. Est-ce que vous parlez d'éducation et de cette empreinte carbone de nos plateaux? Est-ce que vous allez mettre un jour un Carbon Score?
Alors oui, alors d'abord commençons par le Nutri-Score. Le Nutri-Score, nous sommes les premiers et les seuls pour l'instant à afficher le Nutri-Score des plats que nous proposons à nos convives. Alors la raison pour laquelle nous le faisons, c'est que nous sommes convaincus que nous sommes sans doute la restauration la plus vertueuse. Aujourd'hui,
l'alimentation... Vous voulez dire la restauration collective?
Oui, oui. Quand vous regardez notre offre aujourd'hui, vous êtes susceptible de manger tous les jours chez nous et d'avoir une alimentation très très équilibrée. Et donc le Nutri-Score, c'est un peu le moyen d'en apporter la preuve. C'est également l'occasion d'apprendre à nos chefs à concevoir des recettes et parfois à mettre un petit peu moins de sucre, un peu moins de sel. Bon. Aujourd'hui, les 2/3 de nos recettes sont EB. Donc ça, cette démarche, elle a été faite pour effectivement adresser la question de l'information sur les nutritionnels. Mais demain, oui, ce sera aussi sur le carbone sur le contenu de notre objectif.
Mais vous voulez dire que quand on servira chez vous, on aura une empreinte carbone qui sera détaillée par aliment?
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a déjà un projet avec l'ADEME en France qui est en cours et qui nous permet de mettre au point la manière de calculer et ensuite, bien sûr, de communiquer sur ce carbone score.
Alors, comment fournir des protéines à une humanité de plus en plus nombreuse sans faire exploser l'élevage et donc les émissions de gaz à effet de serre? Des chercheurs et des start-up essaient de trouver des solutions et certains croient dur comme fer que nous aurons des insectes dans nos assiettes. Vous nous direz ce que vous en pensez, Philippe Guillemot. D'abord, je vous propose que nous écoutions ensemble le reportage de Marion Ferrer. Elle nous transporte à Dole, dans le Jura, nouvelle spécialité régionale, le scarabée molitor.
Bonjour, bienvenue.
Ben merci.
Donc là, c'est le laboratoire où on s'assure que tout va bien, on garde le poids des insectes, s'ils grossissent bien, s'il faut adapter la nutrition, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour l'élevage et pour la qualité des insectes.
Donc je m'appelle Anaïs Maury et je suis la directrice de la communication et des affaires publiques d'Insect. Insect, c'est le leader mondial de la production d'ingrédients à base d'insectes pour la nutrition des animaux, des plantes, des poissons et des humains.
Là, par exemple, c'est les toutes petites larves. Ça, c'est les toutes petites. Et celle-là, c'est celle qu'on va être amené à transformer. On va les transformer à ce moment-là parce que En fait, entre les deux, là, il y a un autre stade qui est celui de la nymphe, qui est l'équivalent de la chrysalide du papillon. Et pour faire cette transformation de la larve au scarabée, la période de la chrysalide, c'est le moment où en fait, on va lui demander beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est là où la composition de la protéine est la plus forte et de la matière grasse aussi.
Alors, on commence à trouver des aliments à base d'insectes. Alors, on est sous la réglementation Novel Food. Donc, il y a déjà eu des accords qui ont été donnés sur certains ingrédients. Et puis, on a des pays qui avaient accepté une mesure de transition et qui ont accepté donc que des producteurs d'insectes puissent vendre de façon temporaire, avant d'avoir leur accord Novel Food, des ingrédients à base d'insectes pour l'alimentation humaine. Donc, par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, on peut retrouver des produits à base d'insectes, comme des burgers d'insectes, des barres de céréales, des pâtes alimentaires ou des shakes pour les sportifs, par exemple.
Aux portes de la ville, c'est une ferme urbaine d'insectes. 45 salariés, rien de spectaculaire, aucune odeur particulière. Nous sommes dans un grand bâtiment gris, occupé par des caisses de plastique rouges, empilées sur 16 mètres de hauteur, et toutes remplies de larves à différents stades de développement. Vous pouvez aller sur le site du Mageco, vous verrez les photos. Pour l'heure en France, la nourriture à base d'insectes est autorisée pour les poissons, certains bétails, mais pas pour l'homme. Cependant, les investisseurs considèrent que c'est une question de temps. Les aliments du futur, ils veulent y croire. La start-up Insect est déjà en train de construire une autre ferme verticale, près d'Amiens, deux fois plus grande. Ces start-up, est-ce qu'elles nous nourriront demain avec ces protéines alternatives? Pour l'instant, nous sommes dans cette fermilière, à Dole, où notre reporter Marion Ferrer se penche à l'instant sur de grands sacs en kraft à la sortie du broyeur.
Alors, du coup, là, c'est le produit terminé. C'est ça. Donc là, vous avez la protéine d'insecte, qui est une protéine qui est sous forme de farine et qui est un peu comme de la farine très classique, mais un peu plus foncée, qui pourrait ressembler à de la farine un peu de sarrasin. Après, on a l'huile. Donc l'huile, c'est une huile qui a la caractéristique d'une huile très végétale. Donc encore une fois, sans goût et sans odeur, et qui peut être utilisée dans des recettes alimentaires. Et le dernier ingrédient, c'est le fras. Donc le fras, c'est un engrais organique. On récupère les excréments des insectes pour en faire cet engrais qui est utilisable en agriculture biologique.
On est très accompagnés en France comme au niveau européen. Par exemple, pour le projet d'Amiens, on a été la première start-up à recevoir des fonds qui s'appellent les fonds du BBI, qui sont des fonds européens pour la construction de technologies dans la biotechnologie. Et on a reçu à peu près 20 millions d'euros. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour nourrir les humains, mais aussi pour nourrir les produits qui vont être après mangés par les hommes. Et du coup, finalement, avoir une solution comme l'insecte, qui est une solution qui est durable, qui est alternative et qui est qualitative, ça attire aussi les capitaux, mais il y a d'autres protéines qui sont aussi intéressantes, comme les algues, les bactéries, etc. Et on sait que l'insecte n'est pas la seule solution, il y aura d'autres solutions alternatives qui seront très complémentaires.
La demande alimentaire ne cesse d'augmenter. Nous serons bientôt 10 milliards d'humains sur Terre. Alors comment nourrir toutes ces bouches et surtout comment réussir à répondre à la demande croissante de protéines animales ? L'une des solutions, c'est peut-être la viande cellulaire produite en laboratoire. Un secteur où la concurrence est forte, les procédés technologiques très protégés. En France, peu de start-up existent. Étienne Dutoit est fondateur et dirigeant de Vitalmeat à Nantes.
J'ai coutume de dire que nous faisons pousser de la viande plus concrètement. Nous cultivons donc des cellules d'origine animale, en l'occurrence des cellules de poulet, dans des grandes cuves que nous appelons des bioréacteurs. Et l'objectif, c'est de produire des aliments carnés, donc avec le même intérêt gustatif et nutritionnel que la viande, mais avec un mode de production à la fois plus écologique et qui ne nécessite pas de tuer un animal pour produire un aliment carné. Alors, aujourd'hui, on a des prototypes de produits qui sont commercialisables. Donc, on a quitté la paillasse et aujourd'hui, on lance un petit pilote industriel avec une grande cuve de 2000 litres pour produire notre ingrédient. Aujourd'hui, nos principaux travaux consistent à poursuivre cette montée à l'échelle et évidemment à diminuer les coûts pour être capable de proposer des produits aux consommateurs qui soient accessibles financièrement. Alors, les produits issus de l'agriculture cellulaire seront soumis à l'autorisation Novel Food de la Commission européenne. Ce process réglementaire prend du temps, entre 18 et 24 mois. Alors, une première autorisation pour un produit a été faite à Singapour. En termes de quantité et d'impact sur les chaînes alimentaires mondiales, c'est évidemment très faible, mais c'est un signal aussi très fort que ces produits vont arriver prochainement sur nos marchés. Ce sont des produits technologiques avec des développements en R&D qui sont très importants, qui certains sont protégés par de la propriété intellectuelle et par des brevets. Et je pense qu'il est fondamental que la France, pour garantir sa souveraineté technologique sur ces nouveaux produits, se dote d'une filière de compétitivité en complément des filières animales conventionnelles.
Le marché de la food tech, ça représente en 2021 40 à 60 milliards d'euros d'investissement, des fonds qui partent essentiellement vers les États-Unis, seulement 4 à 7 milliards en Europe et 350 millions en France. Pour Mathieu Vincent, du cabinet Digital Food Lab, il nous manque une réelle volonté politique.
Peu de pays en Europe ont une stratégie, entre guillemets, food tech. On a les Pays-Bas qui ont une vraie vision, mais on n'a pas de Singapour, d'Israël ou d'autres pays asiatiques qui peuvent avoir une vraie vision et investir significativement avec des fonds souverains dans ces technologies. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est Singapour, qui a un objectif. D'ici 2030, on veut que 30% des ingrédients, des aliments, soient d'origine de Singapour. Et donc, ça motive toute une logique ensuite d'investissement pour aller dans ces thématiques qui sont assez précises, qui vont l'agriculture urbaine, l'agriculture cellulaire, etc., pour que demain, il y ait ces 30% qui viennent de Singapour. Il y a aussi un autre sujet, on est dans une guerre de la communication et de l'annonce. C'est à qui va annoncer le premier qu'il a atteint tel prix de production ? Qui va annoncer le premier qu'il a atteint telle capacité de production ? Et ces arguments ne sont pas adressés aux consommateurs, parce que de toute façon, on n'y est pas. Ils sont adressés à des investisseurs. Donc il y a une guerre de la communication qui s'adresse plutôt à des investisseurs pour être celui qui va lever le plus de fonds et être le plus capable demain d'atteindre le marché. Surtout si on parle des protéines, le point qui est notable, c'est normalement la consommation de protéines animales doit croître de 3 à 4% par an. 3 à 4% sur un marché qui fait entre 1,4 et 1,7 trillions de dollars, donc 1400, 1500, 1600 milliards de dollars, c'est déjà gigantesque. Donc le but n'est pas forcément de substituer le gramme de protéines qui est déjà dans votre assiette, mais celui qui n'y est pas encore, et notamment moins dans votre assiette, mais celle des Indiens qui se mettent à manger de la viande, du poulet notamment, et de tous les autres pays en voie de développement qui, en émergeant, se mettent à consommer de plus en plus de viande.
Toutes ces recherches vont-elles permettre de répondre à la demande croissante, d'assurer la souveraineté alimentaire ? Aujourd'hui en France, 20% de ce qui se trouve dans nos assiettes est importé. Frédéric Ouellette est économiste et chercheur à l'INRAE. Il vient de publier un livre, « Manger demain ». Et au sujet de la food tech, il reste sceptique.
Ces solutions alternatives ne sont pas des solutions optimales pour répondre aux besoins alimentaires des populations. Elle pose un certain nombre de problèmes techniques, mais aussi un certain nombre de problèmes économiques et éthiques. Par exemple, sur les fermes urbaines ou sur la viande in vitro, on est sur des techniques émergentes qui fonctionnent aujourd'hui à l'échelle d'expérimentation en laboratoire ou de petits volumes, pour lesquels la question du passage à des volumes industriels est non réglée. C'est trop tôt et on a une incertitude sur la faisabilité. Peut-être qu'à horizon de 30 ou 40 ans, on y arrivera, mais pour le moment, les solutions techniques ne sont pas présentes. En ce qui concerne les insectes, cette consommation d'insectes ne fait pas partie des habitudes alimentaires des Français et des Européens. Donc de ce point de vue, il y a des questions sociétales et culturelles à aborder. Ceci dit, ce n'est pas la priorité de ce type de production qui vise principalement à alimenter le bétail ou les fermes aquacoles. Mais là encore, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est peut-être plus durable qu'un certain nombre de solutions alternatives et qu'elle fournit en termes de matière sèche un haut niveau de protéines, mais elle ne peut pas apporter à elle seule la réponse à la durabilité du système alimentaire et à l'alimentation de la population française.
La food tech remplira-t-elle nos assiettes ? C'était le reportage de Marion Ferrer.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Nous étions à Dole, retour à Paris, toujours avec le patron d'Elior, le numéro 1 de la restauration collective en France. Philippe Guillemot, on a écouté ce reportage ensemble. Alors, la viande qui pousse en cuve, la farine d'insectes, est-ce que ça vous intéresse, cette recherche des startups ?
Alors, même si évidemment nous observons tout ce qui peut se faire dans ce domaine, notre première priorité aujourd'hui, c'est surtout de développer les circuits courts, les approvisionnements locaux et de continuer à enrichir l'assiette avec des produits de qualité.
Bon, et alors,
nous ne sommes pas encore prêts de ne pas aller dans les champs et vérifier effectivement ce qui se passe en matière de récolte ou d'élevage.
Je comprends qu'on n'est pas prêt d'avoir des insectes tout de suite sur vos plateaux. Alors, en attendant, vous le dites, on met des aliments plus traditionnels dans les assiettes, mais le prix des matières premières est en train de flamber. Dans la grande distribution cette semaine, Michel-Édouard Leclerc dit que l'inflation en France va s'envoler à 4% en 2022. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors oui, on a toujours eu de l'inflation alimentaire du fait d'un déficit temporaire de l'offre et de la demande à cause des récoltes. Bon, là, il s'avère que non seulement on a ce phénomène, et sur beaucoup de denrées alimentaires, mais en plus ça se rajoute à ça, le coût du transport qui flambe, le coût des emballages qui flambe. Et donc on est sur une inflation effectivement qui est transverse sur l'intégralité de l'alimentation et qui semble-t-il va durer un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Donc oui, il y a aujourd'hui de l'inflation alimentaire.
À quel niveau alors, quand vous dites...
C'est très variable, ça peut, dans certains segments de marché, ça peut aller jusqu'aux États-Unis, on est déjà sur une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire.
Sur l'alimentaire, mais sur le plateau ça donne quoi et en France ça donne quoi?
Alors sur le plateau, bon, l'alimentaire c'est entre 30 et 40% du prix de revient aujourd'hui du repas. Donc si vous multipliez 4% sur 30, vous voyez ce que ça donne. Aujourd'hui, les discussions avec les clients ont déjà commencé. Alors, soit on applique les clauses contractuelles, quand elles existent, sinon ça relève de discussions, mais discussions que l'on a avec eux, comme on a eu des discussions dès le premier confinement sur la manière de couvrir nos coûts fixes résiduels. Donc, je dirais, aujourd'hui, ces dialogues, ils sont permanents, et bon, voilà,
donc,
il s'avère qu'aujourd'hui...
Qui prend la perte ? Qui prend l'inflation ? Est-ce que c'est l'employeur ? Est-ce que c'est le salarié ? Est-ce que c'est vous qui reniez vos marges ? Comment ça se passe ?
Alors, aujourd'hui, après deux exercices en perte, nous ne pouvons pas absorber cette inflation sans la répercuter à nos clients. Et ça, c'est vrai à la fois en privé et en public. Et d'ailleurs, les collectivités territoriales en France vont devoir jouer le jeu. Et je compte d'ailleurs sur le gouvernement pour donner l'impulsion pour que nous puissions effectivement aussi le faire en collectivités territoriales en France. Ceci étant dit, nous réinventons aussi. C'est-à-dire qu'on peut réinventer l'offre pour essayer de contenir cette inflation.
Par exemple,
en basculant d'une production des repas sur place à une production faite dans un lieu tiers, ce qui permet de s'adapter d'abord à la baisse des volumes, parce que malheureusement elle est là également, et de en reconcevant faire de la productivité, en travaillant différemment, également de revoir les menus autant que faire se peut. Donc on joue de tous ces leviers, le gaspillage alimentaire, la réduction des gaspillages alimentaires.
Mais vous dites à vos donneurs d'ordre, arrêtez de tirer sur les prix, là on est au bout.
Oui, non, de toute façon, oui. Nous devrons à un moment donné répercuter cette inflation à nos clients, et en tout cas pour la part que nous n'aurons pas réussi à compenser.
Alors, vous en parlez déjà, il y a le virus, ça c'est le grand défi. Lundi, le gouvernement a appelé à une extension du télétravail, 2-3 jours par semaine, ça veut dire que les cantines qui s'étaient remplies de nouveau après les confinements vont de nouveau sans doute se vider pour une partie. C'est le scénario que vous redoutiez?
Alors c'est le scénario qu'on redoutait, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé à la rentrée de septembre, qui avait plutôt montré un retour au bureau assez marqué, et d'ailleurs une augmentation ensuite sur le mois d'octobre. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans un scénario que malheureusement nous avons connu. Alors, bon, premier confinement, on a perdu 70% du chiffre d'affaires pendant 55 jours. Donc, je vais vous dire, on est quand même assez entraîné à s'adapter à ces baisses de volume. Aujourd'hui, c'est pas du même ordre de grandeur, bien évidemment. Mais clairement, toutes les festivités de Noël sont arrêtées. Or, pour nos équipes, je veux dire, ces repas de Noël, ce sont des événements importants. Tout ça s'est arrêté. Mmh. Le télétravail reprend sa place aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, l'invitation du gouvernement est bien suivie par nos clients et on commence à l'observer.
Donc vous voyez, oui.
Je peux vous dire que vendredi, nos restaurants étaient particulièrement vides.
Ouais. Ça veut dire quoi? Avant cet appel du gouvernement au télétravail, vous disiez que votre chiffre d'affaires diminuerait globalement de 4%, parce que tout n'est pas touché au même niveau. Hein. Les hôpitaux, malheureusement, il y a du monde et il y a besoin de cantines. Les bureaux, en revanche, se vident. Bon, vous disiez que la baisse, ça serait 4%. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un nouveau chiffre? Une prévision de baisse?
Alors là, on vient de parler à l'instant de la baisse conjoncturelle liée à la cinquième vague. La baisse de 4% que vous évoquez, c'est une baisse structurelle. En fait, 18% de notre chiffre d'affaires avant crise était fait avec des gens qui pouvaient potentiellement télétravailler, des convives qui pouvaient potentiellement télétravailler. Et on a estimé que nous perdrions 20% de manière structurelle et permanente de ce volume. Et donc, 20% de 18%, c'est un peu moins de 4% de notre chiffre d'affaires. Okay. Mais nous avons les moyens de compenser. Et d'ailleurs, on voit, on a réinventé complètement nos
offres. Mais est-ce que là, ça change cette prévision? Est-ce que ce nouvel appel du gouvernement...
Sur le structurel, pour l'instant, nous n'avons pas de raison de remettre en cause cette hypothèse. Et d'ailleurs, les mois de septembre et octobre ont montré qu'on convergeait vers cette hypothèse de baisse structurelle. À ça, aujourd'hui, se rajoute cette baisse conjoncturelle qui est liée à la cinquième vague et à toute les mesures qui sont prises pour contenir la propagation de cette cinquième vague. Ceci étant dit, aujourd'hui, je rappelle que les écoles sont ouvertes, et même s'il y a encore un grand nombre de classes qui sont fermées pour raison de Covid, les enfants sont fort heureusement retournés à l'école.
Vous avez 99 000 employés dans le monde, 42 500 en France. Qu'est-ce qui va se passer pour ces salariés
Sur les activités qui sont impactées par ces mesures Covid, et en particulier dans l'entreprise, nous allons à nouveau devoir faire appel à l'activité partielle. Et d'ailleurs, nous allons solliciter le gouvernement pour pouvoir bénéficier à nouveau des aides dont nous avons bénéficié sur les vagues précédentes.
C'est-à-dire ?
C'est l'activité partielle, donc c'est la couverture du salaire par l'activité partielle à hauteur de 85%.
Dans votre secteur, il y a beaucoup de bas salaires, dites-moi si je me trompe. Quand vous entendez, en ce moment on est en pleine campagne présidentielle et on entend il va falloir augmenter les salaires, tout le monde a sa méthode, elle est différente à droite et à gauche. À gauche on veut augmenter le SMIC. Quand vous entendez ça, qu'en pensez-vous?
Écoutez, d'abord, en tant qu'employeur, je vais vous dire, on ne peut que saluer le fait que soit correctement valorisé le travail de nos équipes, qui ont fait preuve d'un engagement absolument remarquable depuis 18 mois. Voilà. Donc oui, mais il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient sur l'inflation. Évidemment, tout ça doit pouvoir être répercuté aux clients. Et à nouveau, je le répète, à commencer par les collectivités territoriales, qui doivent jouer le jeu, qui doivent jouer le jeu.
Ça veut dire ne pas... on revient à cette idée de ne pas demander des plateaux avec un coût de prix de revient, un prix de trop bas.
Il faut être cohérent. Plus de valeur, des collaborateurs mieux rémunérés appellent des prix plus élevés.
Alors, l'inflation, le virus, c'est loin d'être votre seul défi. Pour revenir à la food tech, il y a aussi des start-up qui font de la livraison. Les Deliveroo et les Uber, on en croise de plus en plus, justement, dans les hôpitaux et dans les entreprises. C'est une rude concurrence. On va en parler dans quelques secondes avec Sandrine Foulon, mais Bruxelles, qui veut instaurer une présomption de salariat pour ses livreurs. Ça signifie quoi pour vous?
Alors, déjà, en ce qui nous concerne, je voudrais rappeler que tous nos collaborateurs ont un contrat de travail. Donc il n'y a pas de présomption de salariat chez Elior. Cette concurrence, comme vous l'avez dit, elle s'est fondée sur des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Et je ne peux que saluer l'initiative de Bruxelles dans ce domaine.
Donc ça, c'est plutôt positif. Dernière question. En France, le Secours catholique a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'insécurité alimentaire. Pourquoi pensez-vous que la restauration collective a un rôle à jouer contre la précarité alimentaire?
Alors, elle a joué parce qu'elle a joué un rôle, et nous avons joué un rôle, dans d'autres pays que la France. À l'occasion des premières vagues du Covid aux États-Unis, nous avons produit 6 millions de repas qui ont été distribués, financés par des fonds fédéraux. Et nous avons utilisé finalement notre outil, notre capacité à acheminer des repas en très très grande quantité à des enfants qui n'allaient plus à l'école, mais qui néanmoins avaient encore accès à un repas et une alimentation équilibrée.
Mais en France...
Donc nous savons faire. En France, ça n'a pas été le cas. Personne n'a fait appel à nous. Or, nous avons des solutions.
Philippe Guillemot, le directeur général d'Elior. Merci d'avoir été l'invité du Mag Écho. Alors on y vient. La Commission européenne a présenté avant-hier un projet de directive qui dit que les salariés des les travailleurs des plateformes sont présumés salariés. Étienne, qui est un ancien livreur à vélo, réagit à cette annonce. Sandrine Foulon, et il vous demande, oui, mais si on le souhaite vraiment, comment rester un indépendant?
Effectivement, Étienne, la Commission a fait une annonce très forte. Elle renverse complètement la logique. Tous les travailleurs des plateformes, livreurs à vélo ou chauffeurs de VTC, sont considérés comme des salariés. C'est ce qu'on appelle la présomption de salariat. Les travailleurs ne doivent plus prouver qu'ils sont en réalité de faux indépendants. C'est à la plateforme, Uber, Deliveroo ou Bolt, de démontrer que ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, ce sont les juges qui sifflaient la fin de la récré. Partout en Europe, ils ont requalifié cette prestation commerciale en contrat de travail. Quand un indépendant n'est pas libre de ses courses, de sa rémunération, de ses horaires, qu'il peut se faire mal noter et éjecter par l'algorithme, le lien de subordination est clairement établi. La Commission en a pris acte. Ça signifie que potentiellement, plus de 5 millions de chauffeurs et livreurs en Europe auront accès à des droits, chômage, retraite, santé, et que des cotisations patronales entreront enfin dans les caisses des États. Étienne, tout l'intérêt de cette directive, fait remarquer la juriste Barbara Gomez, est qu'elle protège les salariés, mais aussi tous ceux qui veulent vraiment exercer en tant qu'indépendants. Ce texte met une grosse pression sur les plateformes pour qu'elles respectent l'autonomie réelle des auto-entrepreneurs.
Mais justement, Étienne redoute que les plateformes en profitent pour augmenter leurs tarifs et tailler, Sandrine, dans les effectifs de coursiers et de chauffeurs.
Oui, alors c'est l'argument que mettent en avant les plateformes depuis des années pour ne pas avoir à assumer le rôle d'un employeur qui lui coûterait cher. Elles organisent la riposte. L'Espagne, qui a reconnu cet été le statut de salarié aux livreurs de repas, est un cas intéressant. Certaines plateformes tentent de contourner la loi, elles assurent que les indépendants peuvent se déconnecter à tout moment, sans pénalité. Mais d'autres opérateurs, comme Just Eat, embauchent leurs anciens coursiers ou font appel à des sociétés qui elles-mêmes les recrutent en tant que salariés. Alors bien sûr, ces plateformes ont un peu de temps devant elles. Le projet de directive européenne doit d'abord être voté, puis transposé dans le droit de chaque État membre. Mais l'étau se resserre. Partout, les plateformes sont menacées par des procès en requalification massif. Elles savent qu'elles vont devoir changer de modèle, y compris en France, l'un des pays d'Europe les plus favorables à cette économie des plateformes.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.